Première partie, 2.
Le matin du 16 juillet, Michel Strogoff, vêtu d'un simple costume russe, monte dans le train qui va le conduire à Nijni Novgorod. Dans le train, les voyageurs, qui sont presque tous des commerçants, qui vont à la grande foire de Nijni Novgorod, parlent de l'invasion des Tartares. À la gare de Vladimir, de nouveaux voyageurs montent dans le train. Parmi eux, il y a une jeune fille qui s'assoit en face de Michel Strogoff. C'est une jeune fille blonde, charmante, qui doit avoir entre 16 et 17 ans. Michel Strogoff la regarde avec curiosité et se demande où elle va, toute seule. Des policiers montent aussi dans le train et demandent leurs papiers aux voyageurs.
« Tu es de Riga ?»
demande-t-il à la jeune fille en regardant son billet.
« Oui. »
« Tu vas à Irkoutsk ?»«
Oui. » »«
Par quelle route ?»«
Par la route de Perm. » »«
Bien, »
répond l'inspecteur.
« Tu devras faire viser ton permis au bureau de police de Nijni Novgorod. »
En entendant ses demandes et ses réponses, Michel Strogoff est surpris. Malgré la situation politique, cette jeune fille va toute seule en Sibérie. Le Caucase, le bateau qui va amener le courrier du tsar de Nijni Novgorod à Perm, ne part que le lendemain à midi. En attendant son départ, Michel Strogoff se promène dans la ville et pense à la jeune fille qui a voyagé avec lui. Il se demande pourquoi elle va en Sibérie toute seule. Il s'assoit sur un banc à côté d'une roulotte en bois.
« Qu'est-ce que tu fais là ?»
lui demande d'une grosse voix un homme qu'il n'a pas vu venir.
« Je n'aime pas que des inconnus s'assoient devant chez nous. »«
Je me repose ?»
répond Michel Strogoff. L'homme ressemble à un bohémien. À ce moment, la porte de la maison s'ouvre et une femme lui dit
« C'est sûrement un espion. Laisse-le et viens souper. »« Tu as raison, Sangar. » « Et puis demain, nous serons partis. »«
Demain ?»
répond la femme surprise.
« Oui, Sangar, »
répond le bohémien.
« Et c'est le père lui-même qui nous envoie où nous voulons aller. »
Michel Strogoff se trouve sur la place centrale de la ville lorsqu'un policier arrive et lit la déclaration suivante.
« Aucune personne russe ne pourra sortir de la province. » Tous les étrangers d'origine asiatique doivent quitter la province immédiatement. Aucune personne russe ne pourra sortir de la province.
Si Ivan Ogarev est encore dans la province, cet ordre l'empêche de rejoindre Féofarkhan, qui perd ainsi un homme important, pense Michel Strogoff. Il pense aussi à la jeune fille russe qui ne pourra pas continuer son voyage. Il se demande s'il peut l'aider et comment. Je peux avoir besoin d'elle plus qu'elle n'a besoin de moi, pense-t-il. Si je voyage seul, quelqu'un peut deviner que je suis le courrier du tsar. Si au contraire cette jeune fille m'accompagne, je ressemble davantage à un commerçant. Oui, il faut qu'elle m'accompagne. Toute la soirée, Michel Strogoff cherche la jeune fille, mais il ne la trouve pas. Le lendemain matin, il va montrer son pot d'arochna au bureau de police. La jeune fille est là, assise sur un banc, et elle a l'air très malheureuse. Michel Strogoff devine qu'elle ne peut pas continuer son voyage à cause de l'ordre du tsar. Un agent fait entrer Michel Strogoff dans le bureau du chef de police. Lorsqu'il ressort, son pot d'arochna signé à la main, il s'approche de la jeune fille et lui tend dans la main.
« Ma sœur, »
dit-il. Elle comprend et se lève.
« Ma sœur, » répète Michel Strogoff, « nous avons l'autorisation de continuer notre voyage à Irkoutsk. Tu viens ?»«
Je te suis, mon frère, »
répond la jeune fille en mettant sa main dans celle de Michel Strogoff. Et ils quittent ensemble la maison de police. Deux heures après le départ du Caucase, Michel Strogoff et la jeune fille sont assis sur le pont.
« Tu vas à Irkoutsk, frère ?»«
Oui, sœur. Nous allons tous les deux au même endroit. Et partout où je passerai, tu passeras. »« Demain, frère, je te dirai pourquoi je vais en Sibérie.
Je ne te demande rien, sœur.
Tu sauras tout. Une sœur ne doit rien cacher à son frère. Aujourd'hui, je ne peux rien te dire. Je suis trop fatiguée.
Tu veux aller te reposer dans ta cabine?
Oui.
Viens.
Nadia,
dit-elle en lui tendant la main.
Viens, Nadia,
répond Michel Strogoff.
Prends la main de ton frère, Nicolas Korpanov.
Lorsque Michel Strogoff revient sur le pont, il se promène parmi les passagers et écoute ce qu'ils disent. Deux hommes parlent en russe avec un accent étranger.
« Vous sur ce bateau, mon cher confrère ?»
dit Alcide Jolivet.
« Moi-même, »
répond l'autre.
« Vous me suivez donc ?»« Je ne vous suis pas, monsieur, je vous précède, »
répond l'anglais.
« Disons que nous marchons de front. Vous allez à Perm comme moi, comme vous, et ensuite vous irez de Perm à Ekaterinbourg, probablement. » Lorsque nous aurons passé la frontière, nous serons en Sibérie, c'est-à-dire en pleine invasion. Donnez-moi la main, monsieur Blount, et soyons amis pendant que nous sommes sur ce bateau. »
En se promenant sur le pont, Michel Strogoff reconnaît aussi les voix des bohémiens qu'il a entendues à Nijni Novgorod et il s'arrête pour écouter.
« On dit qu'un courrier est parti de Moscou pour Irkoutsk, »
dit la femme.
« On le dit, Sangar. » Mais ce courrier arrivera trop tard, ou il n'arrivera pas. »
Michel Strogoff tressaillit en entendant ces mots. « Qui sait qu'un courrier est parti et comment l'a-t-il appris ? »